such a gift to a man.
Trouvez-vous là sur françaisfacile.rfi.fr.
Merci d'écouter RFI midi en temps universel. Il est 14h à Beyrouth.
RFI midi.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une de ce journal, l'enlèvement par l'armée israélienne d'un responsable du groupe islamiste sunnite Atwi Atwi dans le secteur est de la frontière au sud Liban. Nous ferons le point avec notre correspondant à Beyrouth. À Hong Kong, 20 ans de prison pour le mania de la presse pro-démocratie Jimmy Lai, accusé de collusion avec l'étranger et publication séditieuse. Les défenseurs des droits voient dans cette condamnation la mort des libertés à Hong Kong. C'est la peine la plus lourde jamais prononcée. En France, un procès, celui de 9 CRS devant le tribunal correctionnel de Paris, jugé pour avoir violemment matraqué des manifestants du mouvement Gilets jaunes à Paris. C'était il y a 8 ans. Et puis nous ferons un tour au Super Bowl. Le concert de la mi-temps de Bad Bunny était très attendu.
Et direction d'abord le sud du Liban, où l'armée israélienne a enlevé un responsable donc d'un groupe islamiste sunnite. Atwi Atwi, ça s'est passé chez lui tôt ce matin.
La porte-parole arabophone de l'armée israélienne a indiqué que l'opération visait un important élément terroriste qui a été transféré en Israël pour y être interrogé. Elle a ajouté que des moyens de combat ont été découverts à l'intérieur du bâtiment. Paul Khalife, vous êtes notre correspondant à Beyrouth. Que sait-on de la personne enlevée par l'armée israélienne et des circonstances de l'opération ?
Juliette, Atwi Atwi est le responsable de la Jamaa Islamiya, la branche libanaise des frères musulmans, dans la partie orientale du sud du Liban. Ce groupe possède une aile militaire appelée les forces Al-Fajr, qui prône la résistance armée contre les troupes israéliennes. À la mi-janvier, Washington a placé ce groupe sunnite sur la liste des organisations terroristes étrangères. Des habitants ont indiqué qu'un commando d'une vingtaine de fantassins israéliens est entré à pied dans le village situé à 12 km de la frontière. Il a pris d'assaut le domicile de Atwi Atwi et les soldats ont agressé physiquement sa famille avant de le conduire en Israël.
Et Paul, l'armée israélienne a lancé ce lundi une autre attaque qui a fait 3 morts dans le sud du Liban.
Oui, un drone a mené une frappe contre une camionnette stationnée devant le siège de la municipalité d'un village près de la ville côtière de Tyr dans la partie occidentale du sud Liban. Le conducteur du véhicule ainsi qu'un père et son enfant qui se trouvaient à proximité ont été tués dans cette attaque. Un appareil israélien a également largué une bombe sonore sur la localité frontalière de Kfar Kila dans le secteur central du sud Liban. Cette pratique devenue quotidienne vise à dissuader les habitants à regagner leur village situé à la frontière. Israël veut transformer cette région en zone tampon déserte.
Les précisions de notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalife.
On reste au Proche-Orient, à Gaza, où la trêve est toujours très fragile.
L'armée israélienne a déclaré aujourd'hui avoir tué 4 combattants palestiniens qui ont attaqué ses soldats en sortant d'un tunnel à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ce secteur se trouve à proximité du point de passage de Rafah, qui a réouvert il y a une semaine tout juste. En une semaine, 88 personnes sont rentrées d'Égypte, selon le service de presse du gouvernement de Gaza, placées sous l'autorité du Hamas. Ceux qui partent sont toujours prioritairement des malades et leurs accompagnateurs. 179 Palestiniens ont pu quitter l'enclave en 7 jours, des évacuations sanitaires car l'urgence est vitale. Reportage de Ferial Abdou à Gaza, raconté par Frédéric Misselin.
Ça ne va pas assez vite, il faut faire plus ou les gens vont mourir. C'est le message que veut faire passer Mohamed Abou Salmiya, qui dirige l'hôpital Al-Shifa à Gaza.
Plus de 1300 patients en liste d'attente sont déjà décédés, dont de nombreux enfants, en raison du manque de soins de santé dans la bande de Gaza et de l'impossibilité de quitter Gaza pour se faire traiter. Chaque jour, davantage de personnes meurent à cause du siège qui nous est imposé. Le mécanisme actuel utilisé par Israël, qui consiste à ouvrir le passage et à permettre à environ 50 patients ou moins de partir, ne résout pas la crise.
Ahmed Ranem en est bien conscient. Il a perdu sa mère d'un cancer il y a 2 mois et demi.
Je vous le dis, ma mère est morte à Gaza. 20 000 personnes ont besoin d'une évacuation sanitaire. Le cancer de ma mère a été placé dans la catégorie B, ne méritant pas un voyage urgent.
Pour l'instant, les entrées et les sorties de l'enclave palestinienne se font toujours au compte-gouttes. Ferial Abdou à Gaza, Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI. RFI.
Israël a annoncé des mesures pour étendre son contrôle sur la Cisjordanie occupée. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé hier une série de règles dans ce sens et le contrôle sera notamment sur des zones administrées par l'autorité palestinienne selon un communiqué officiel. D'après le texte, les réglementations datant de l'époque où la Jordanie administrait la Cisjordanie avant 67 et qui interdisait aux Juifs d'acheter des terres doivent être supprimées. Ce matin, l'Arabie Saoudite et sept autres pays à majorité musulmane, dont le Qatar et l'Égypte, médiateurs dans le conflit à Gaza, ont condamné les mesures d'Israël visant à étendre son contrôle sur la Cisjordanie occupée. Israël qui annonce donc une série de mesures pour étendre son contrôle sur la Cisjordanie. On en parlera tout à l'heure avec votre invitée, Anne.
Oui, Agnès Levallois, présidente de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, l'IREMO. Nous serons en ligne avec elle dans un peu plus de 10 minutes maintenant. Il est 20h06 à Hong Kong. Jimmy Lai, figure de la presse pro-démocratie, condamné à 20 ans de prison.
Condamnation au nom de la sécurité nationale. Les ONG dénoncent cette décision comme une attaque frontale contre la liberté d'expression. Amnesty International parle notamment d'une attaque de sang-froid. Human Rights Watch est un véritable arrêt de mort compte tenu de l'âge de Jimmy Lai. Correspondance à Pékin de Cléa Broderst.
À 78 ans, Jimmy Lai risque de finir sa vie derrière les barreaux. L'ancien magnat de la presse hongkongaise a été condamné pour collusion avec des forces étrangères et publications séditieuses dans l'un des procès les plus emblématiques menés sous la loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine en 2020. Fondateur du journal Apple Daily, fermé de force en 2021 après des raids policiers et le gel de ses avoirs, Jimmy Lai est accusé d'avoir utilisé le journalisme comme couverture pour appeler à des sanctions internationales contre Hong Kong et Pékin. Les juges l'ont désigné comme le cerveau d'un complot visant à déstabiliser le pouvoir chinois. Pour les autorités, il ne s'agit pas d'une affaire de liberté de la presse. Pour ses soutiens, c'est exactement l'inverse. Sa condamnation alimente les inquiétudes des journalistes, universitaires et ONG qui redoutent qu'un simple regard critique, surtout relayé à l'international, puisse désormais être qualifié de menace pour la sécurité nationale. Apple Daily tirait à 1 million d'exemplaires le jour de sa fermeture. Sa disparition, comme la condamnation de son fondateur, acte l'effacement méthodique de l'espace médiatique libre à Hong Kong. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
Et à noter que ce matin, l'Union européenne a déploré la condamnation de Jimmy Lai et appelle à sa libération immédiate. La Chine et le Japon, au lendemain de la victoire aux législatives de la première ministre japonaise, Sanae Takaichi, alors que la campagne a gravité autour de l'économie, la première ministre conservatrice est indissociable du raidissement diplomatique avec la Chine depuis novembre. Elle avait laissé entendre que Tokyo pourrait réagir militairement à une attaque contre Taïwan. Ce lundi, la Chine a promis une réponse résolue au Japon en cas d'acte inconsidéré de la part de Tokyo. La première ministre japonaise, elle, s'est dite ouverte au dialogue avec Pékin. Elle a également déclaré qu'elle affermirait avec le président américain l'unité inébranlable de leurs deux pays lors de sa prochaine visite aux États-Unis.
Donald Trump, pour l'heure, fait face à une vague de contestation dans son pays depuis la mort de deux manifestants tués par des policiers de l'immigration en janvier dans l'État du Minnesota.
Nous nous concentrons exclusivement sur les criminels, les très dangereux criminels, a déclaré le président hier au sujet de sa politique d'immigration. Des propos tenus dans une interview accordée à la chaîne NBC avant le coup d'envoi de la finale du Super Bowl. On y reviendra aussi en fin de journal. A noter que NBC a vérifié et que plus d'un tiers des quelques 220 000 personnes arrêtées par les agents de l'immigration au cours des 9 premiers mois de l'administration Trump n'avaient aucun antécédent criminel.
Et parmi ceux qui sont visés, il y a notamment des membres de la communauté vietnamienne.
En 2020, Washington a fait pression sur Hanoï pour rompre un accord de 2008 qui interdisait l'expulsion de ceux qui avaient cherché refuge et s'était installé aux États-Unis avant 1995. Un accord qualifié de bouclier humanitaire. Aujourd'hui, à peine plus d'un an après le retour de Trump à la Maison-Blanche, les expulsions forcées de ressortissants d'Asie du Sud-Est ayant un casier judiciaire ont fortement augmenté. Les associations dénoncent une situation alarmante. Chui Phung Nguyen du service vietnamien de RFI avec Lila Olkinu-Ora.
Entre janvier et octobre 2025, plus de 670 Vietnamiens ont été déportés par l'administration américaine. C'est plus que lors des 4 années du premier mandat de Donald Trump. Des chiffres qui préoccupent Quyen Dinh, directrice du Centre d'action pour les réfugiés d'Asie du Sud-Est.
Il reste encore 3 ans à cette administration et nous savons qu'au total, environ 9000 Vietnamiens font l'objet d'une mesure d'expulsion. Environ 80% d'entre eux ont commis des crimes dans le passé, mais ils ont déjà purgé leur peine depuis des décennies.
Des ressortissants arrivés aux États-Unis avant 1995, auparavant protégés par un accord entre Hanoï et Washington, renvoyés sous prétexte de représenter une menace pour la sécurité intérieure, pour des peines déjà purgées et expulsés vers un pays avec lequel ils n'ont plus de lien, explique Quindin.
Ce sont des personnes qui sont nées dans des camps de réfugiés, qui n'ont jamais connu le Vietnam ou qui l'ont quitté alors qu'elles étaient très jeunes. Beaucoup d'entre elles ne parlent plus le vietnamien. Elles n'ont plus de lien avec leur famille et leur communauté, mais elles en ont créé ici, aux États-Unis, et doivent maintenant s'en séparer.
Une procédure facilitée par le Vietnam sous la pression de Donald Trump qui menaçait le pays de nouveaux droits de douane. Hanoï répond désormais aux demandes d'expulsion dans un délai d'un mois.
Chi Phuong Nguyen avec Lila Olkinour.
RFI Midi.
On parle économie à présent, économie du vin, puisque le salon Wine Paris, salon international de vin, a été inauguré tout à l'heure à Paris.
Inauguration par le président français Emmanuel Macron et nous sommes en ligne avec notre reporter Agnieszka Kumor. Agnieszka, bonjour. Dites-nous, bonjour. Quelle ambiance parmi les professionnels du vin venus du monde entier? Quelle est l'ambiance?
Eh bien, tenir le cap contre vents et marées, c'est un peu la devise de ce Wine Paris 2026. 3 jours pour faire des affaires, producteurs, importateurs, distributeurs, cavistes. Ils évoluent tous dans un contexte très difficile de crise. La baisse de la consommation, l'arrachage de vignes, le changement climatique ou encore les guerres douanières entre les États-Unis, l'UE et la Chine. Mais au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil, disent les professionnels que j'ai rencontrés ici au salon. Les accords de libre-échange sont très importants pour les vins français et les vins européens. A souligné Emmanuel Macron, le président français a échangé pendant plus d'une heure avec les vignerons. Le Canada, il faut y aller, a-t-il dit. On parle évidemment du Mercosur et bien sûr du récent accord commercial UE. Un de ces accords sont une opportunité pour gagner de nouveaux marchés, de grands espoirs donc ici, de l'optimisme. Mais pour concrétiser ces espoirs, il faudra travailler, innover pour pouvoir toucher de nouveaux publics. Les organisateurs attendent 60 000 visiteurs ici au salon, et ce jusqu'à mercredi soir.
Les précisions d'Agnieszka Kumor au Salon international du vin à Paris. En France, toujours, l'ouverture du procès de 9 CRS devant le tribunal correctionnel de Paris s'est ouvert aujourd'hui. Ils sont jugés pour avoir violemment matraqué des manifestants du mouvement Gilets jaunes à Paris. Bonjour Baptiste Coulon.
Bonjour à tous.
9 hommes vont devoir s'expliquer 8 ans après les faits.
Oui, nous sommes en décembre 2018. C'est l'acte 3 du mouvement des Gilets jaunes, l'un des plus violents. Journée marquée par des dégradations commises à l'intérieur de l'Arc de Triomphe par certains protestataires. Un petit groupe de manifestants quitte la place où se trouve le monument. Noyé dans les gaz lacrymogènes, il se réfugie dans un restaurant de la marque Burger King. Les CRS reçoivent l'ordre de les faire sortir. Sur les images de vidéosurveillance rendues publiques il y a quelques jours, des manifestants et un journaliste frappés au sol à coups de matraque et de pied par des CRS qui n'ont fait aucune sommation. Une intervention violente qui contraste avec le comportement des manifestants. Ils n'ont commis aucune dégradation dans les locaux et avaient pour certains levé les mains face aux CRS pour montrer qu'ils n'étaient pas hostile. C'est donc à la justice d'analyser désormais les faits et les arguments. Ceux de la défense qui plaidera le niveau inédit de violence auquel ont été confrontées les forces de l'ordre ce jour-là. Ceux des parties civiles qui évoquent une brutalisation du maintien de l'ordre. Les prévenus risquent pour certains jusqu'à 7 ans de prison.
Les précisions de Baptiste Coulon et puis retour aux États-Unis. Son concert de la mi-temps du Super Bowl était très attendu. Bad Bunny n'a pas déçu. 13 minutes de grand spectacle de la joie et un message d'unité. C'est ce qu'il faut retenir de ces donc 13 minutes de show de la superstar. Ce 60e Super Bowl a été remporté par les Seattle Seahawks favoris contre les Patriots de New England, Loïc Piella.
Bad Bunny a accueilli les téléspectateurs sur son île de Porto Rico, chantant au milieu des cannes à sucre son tube Titi Me Pregunto. Il a continué à voyager sur son île, dansant devant une petite maison accompagnée de l'acteur chilien Pedro Pascal et de la chanteuse colombienne Karol G. Puis il a rejoint le toit d'une camionnette avant de se faufiler entre de faux buissons et de vrais danseurs et musiciens. Une scénographie d'autant plus spectaculaire qu'elle n'a été assemblée qu'en quelques minutes. Surprise, Lady Gaga a surgi reprenant son morceau Die With A Smile dans une version salsa avant de danser à son tour. Le chanteur s'est emparé d'un drapeau de Porto Rico, d'autres drapeaux du continent l'ont suivi. Derrière lui, sur l'écran géant du Levi's Stadium, le message « Seul l'amour est plus fort que la haine », une célébration de la culture latino autant qu'une déclaration politique.
God bless America! Sea Chile! Argentina!
Dans le stade, Kiani a apprécié le show, Cathy, beaucoup moins.
J'ai trouvé ça très beau. J'aurais aimé que l'écran ne me bloque pas la vue, mais j'ai absolument adoré.
Je ne sais pas ce qu'il disait. Il répétait je me disais, c'est quoi ça?
Le Kiela Santa Clara RF.
Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.
À tout à l'heure, Juliette Pietraszewski. Il est midi et quart en temps universel et on va parler tout de suite de l'actualité sportive. Du reste de l'actualité sportive, il n'y a pas que le Super Bowl à suivre. Bonjour Pauline Guillou.
Bonjour tout le monde.
Avec l'Italie d'abord et les Jeux Olympiques d'hiver, troisième journée ce lundi.
Oui, avec les épreuves de ski alpin et la nouveauté de cette année, le combiné nordique par équipe de skieurs, l'un pour la descente, l'autre pour
slalom. Oui, allô, vous avez un message.
Radio HDR, le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1 FM.
Je vous remercie de votre attention.
HDR 99.1.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Cette semaine, encore au Salon des Mers, donc encore avec un petit peu de bruit autour de nous, et je m'en excuse auprès de vous, chers auditeurs, mais le sujet était trop important et il y a vraiment une personne que j'ai vraiment envie de vous rencontrer, de vous présenter aujourd'hui. Il s'agit d'Hermine Chombard de Lauve, directrice du Conseil National de la Résilience Alimentaire. Alors ça, vraiment, c'est un sujet, la résilience alimentaire, on en parle souvent sans en parler, quand on va voir des petits agriculteurs sur les territoires, quand on rencontre des acteurs qui nous racontent qu'il faut recréer du lien localement, qu'il faut recréer de l'activité localement, qu'il faut remettre les choses à l'échelle du territoire. Mais là, en plus, il y a un vrai enjeu, celui de la résilience alimentaire. faire. On en a un petit peu entendu parler, on en a un petit peu pris conscience pendant le Covid, mais comme beaucoup de choses dont on a pris conscience pendant le Covid, ça a été malheureusement assez peu suivi des faits. Mais on va en parler aujourd'hui, cette résilience alimentaire. On va essayer de vous motiver soit à rejoindre le CNRA, Conseil National de la Résistance de la Résilience Alimentaire. C'est une forme de résistance. Le lapsus était assez révélateur. Bonjour Hermine.
Bonjour Nicolas, merci.
Avec toi Hermine, on va parler de cette résilience. Quelle est l'origine de ce Conseil National de la Résilience Alimentaire ?
Merci pour la question. Alors, sans surprise, le CNRA a été créé le lendemain du premier confinement, donc en 2020. Et c'est une initiative citoyenne. Donc, c'est une douzaine d'entrepreneurs et associatifs qui se sont réunis sur deux constats. Le premier constat, c'est que tout le monde parle d'une alimentation plus saine, plus durable, plus respectueuse de l'environnement. On est dans un contexte Covid, hein, il faut vraiment se remettre dedans. Il y a plein de solutions d'innovation publique, privée, grosse, petite, citoyenne, individuelle, collective, etc., qui émergent et qui vont œuvrer et participer de cette meilleure alimentation en temps de crise. Et l'autre constat, et malheureusement l'actualité aujourd'hui continue à bien nous donner raison, c'est que finalement les données, les indicateurs, on est loin du compte. Et je ne parle pas que du taux de bio, je ne parle pas que du taux d'obésité infantile, de la transmission des exploitations agricoles, etc. Donc on a créé cette association, et on veut rester associatif pour être désintéressé, avec un but de fédérer et de réunir toutes ces solutions qui sont complètement géniales et qui contribuent individuellement à la résilience alimentaire des territoires.
Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit en préambule, que j'ai oublié de dire, c'est que par exemple nos supermarchés, il faut qu'on le sache, ont 3-4 jours d'avance pour nous nourrir. C'est-à-dire qu'au-delà, si on a un problème sur le territoire d'approvisionnement, pour Paris, si on ne peut plus arriver à Rungis, ça veut dire que c'est une ville qui meurt de faim. C'est-à-dire dans un pays riche comme le nôtre, c'est un pays qui au bout d'un mois peut se retrouver dans un état de siège et de guerre civile absolument terrible.
Ben, vous avez tout à fait raison, cher Nicolas, c'est exactement...
On va tutoyer quand même. On va
tutoyer, ouais. Tu as tout à fait raison. C'est l'un des enjeux qui sont très forts, c'est-à-dire que la résilience alimentaire n'impose pas d'être 100% local comme on n'est pas 100% circuit long. L'objectif, c'est vraiment l'équilibre. C'est exactement la même chose que le système digestif. Le système alimentaire doit être équilibré et tablé aussi bien sur du local que sur du distanciel. Donc l'objectif, ça va être de se dire comment est-ce qu'on peut concilier les circuits courts avec les circuits longs. Le sujet des stocks que tu évoques, effectivement, on a 2-3 jours de stock qui sont dans les camions, clairement pas. C'est même pas dans les supermarchés, c'est dans les camions, hein, les stocks. Et à Paris, c'est clairement ça, alors qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on avait 3 mois dans les celliers. Donc il y a quand même une chose qui s'est passée qui est énorme. Tout ça, c'est un système qui s'est construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, très clairement, sur des circuits extrêmement performants, mais tellement performants qu'ils sont hyper fragiles. C'est vraiment cette notion de robustesse.
Nous sommes une civilisation, un colosse, alors thermo-industriel, très lié au pétrole, et qui est un colosse au pied d'argile.
Exactement. Donc nous, notre propos, c'est certainement pas de déconstruire tout ce qui existe, qui est puissant, mais c'est d'être encore une fois sur l'équilibre et de se dire, si on a un bug à l'étranger et qu'on ne peut plus rien importer, on ne peut plus bouffer. Si on a un bug local et que toute notre alimentation dépend des 50 km autour de chez nous, un accident climatique ou une pandémie très forte, etc., ou simplement les prix du pétrole, finalement, on ne peut plus manger. Donc comment est-ce qu'on met en place une stratégie qui capitalise sur ce qui existe? Attention, il ne s'agit pas de réinventer la roue. On a 90% des solutions, les a en France. On n'a pas besoin d'aller chercher ou d'inventer des trucs incroyables ou de recréer des choses. On les a. Sauf que aujourd'hui, ils sont ultra performants et chacun est dans sa ligne de nage. Donc nous, on veut casser ces silos, entre guillemets, pour avoir une réflexion, une approche collective. Et on dit aux gens, mais travaillez ensemble. Et je terminerai par là, le meilleur territoire d'expérimentation, c'est évidemment notre territoire. C'est là où l'on vit, c'est là où on travaille, c'est là où l'on consomme, c'est là où on éduque nos enfants. Parce que le système alimentaire, on a tendance à l'oublier, mais parce qu'on n'a jamais eu de problème dans notre génération aujourd'hui de savoir ce qu'on allait mettre dans notre assiette. Si ce n'était pas toujours ce qui nous faisait plaisir à nos papilles, c'est au moins on est nourri, notre estomac est rempli. Mais on a une responsabilité forte pour nos enfants. Il y a un bug demain, un gros bug. On a 30 ans, on n'a pas de problème à aller prendre notre brouette et aller chercher des châtaignes, des carottes sauvages, etc. Mais dans les EHPAD, dans les maternelles, la solidarité est au cœur de la réflexion et de la